RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Vous écoutez
RMC. RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
Salut à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show. Comme tous les dimanches, on est ensemble pendant une heure. Salut Mundir.
Salut Daniel, l'été est chaud, l'été est beau, elle est sauvage, la vie est belle. Je sais pas, tu te souviens de... L'été, mon loulou. Comment ça va Dan?
Très bien. Je sais pourquoi tu dis ça, parce qu'on entre dans la période, je sais pas, qui est peut-être la meilleure dans la saison poker. Il va y avoir le Sismix à Marrakech.
Eh oui.
Tu vas partir à Las Vegas.
Alors bien sûr.
Sans moi cette année, tu risques
d'être
un petit peu perdu.
Je suis dégoûté.
Mais néanmoins, je ne doute pas que tu t'éclates comme il faut, que tu participes à moi. En même temps, tu vas avoir Jérém avec
toi. Ah bah oui, mon loulou avec moi. Et puis,
En même temps, l'année dernière, il était avec nous, on ne l'a pas vu.
Il s'est perdu dans Sin City. Exactement.
Dès le premier jour, on l'a vu trois fois en 15 jours.
Il ne faut pas qu'il soit milliardaire, lui, parce qu'il ne nous connaît plus.
Ça, c'est sûr que son premier Vegas,
il a
un peu perdu la boule.
On avait un gamin de 18 ans qui est parti partout. Hein.
Oui, mais c'est vrai, c'est une très belle période qui s'ouvre. D'ailleurs, la semaine prochaine, on se rend direct de Marrakech pour le Sismix. On va faire une petite série de tournois. Je pense que tu vas jouer beaucoup, non?
Ouais, j'ai 5 tournois que j'ai préparés là.
Et moi, 2. Moi, toujours un programme un peu moins important.
Et ce main event que tu vas faire pour la première fois.
Oui, je vais faire le main. Cette année, je le fais. Et le finisher.
Ah, the finisher.
Dimanche prochain.
The punishment.
Le finisher. Je vais tous les finish.
C'est génial. T'as vu?
Et on fera l'after foot.
Oui, c'est vrai. Il y a l'after
Marrakech.
C'est le premier.
D'abord, évidemment, le RMC Poker Show, mais l'after est en tournée au Maroc. Suite de la tournée internationale, nous serons à Casablanca le lundi 3 juin et nous ferons l'after foot le samedi soir après la finale de la Ligue des Champions. Marouane Chamakh sera avec nous.
Ah, quelle semaine de croquage
Très belle semaine.
Ah, non, oui.
Et pour cette dernière édition avant nos grands voyages du RMC Poker Show ici à Paris, le casting, je pense, est plutôt pas mal.
Aujourd'hui, il est ultra premium.
Voilà. On a en studio avec nous. La dernière fois, on l'avait eu au téléphone.
On a du Triton. Un pote,
notre nouvel ami normand.
Exactement.
Thomas Santerre.
Salut Thomas.
Salut à tous.
L'homme un peu bankable du moment.
Du moment, ouais. Ça risque de durer longtemps.
Là, je pense qu'on va brasser de l'oseille et on ne sera pas en dessous de 6 chiffres.
Hein. Non mais là, je crois que c'est un
code-barre. On va faire rêver les gens.
Ah, c'est un code-barre le chiffre.
Ouais. Attention, là, ça va partir. Thomas, comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Content de t'avoir dans les RMC Poker Show. J'ai l'impression qu'on a entretenu la légende.
Eh oui.
Tu connais la fameuse légende du RMC Poker Show.
Et quand on passe, on perf derrière, c'est ça?
Exactement.
Bon, il est au courant, il sait tout.
Voilà,
on savait parfait avant. On va pas dire.
Oui.
On va pas dire que t'es arrivé ici avec les poches vides. T'avais déjà les poches pleines, mais elles se sont remplies encore plus.
Là, il a été payé en lingots.
RMC Poker Show remplit les poches, je veux dire.
Exactement. Et il est rassasié.
Pas les nôtres.
Mais écoute, on est obligé de faire des 10 balles, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux.
Tu reviens des Tritons.
Triton Monténégro, c'est ça.
Monténégro, le niveau est un peu plus élevé qu'au Vietnam, parce que Vietnam, le niveau, on le sait, hein, c'est une autre légende, c'est bidon.
Ouais. Moi, j'avais joué avant en Corée du Sud et Monténégro, c'était un peu plus relevé, mais ça allait. Il y avait quand même.
Étonnant cette destination Monténégro. Comment c'est que les Tritons sont installés une étape au Monténégro?
Mais il y avait déjà eu avant.
Oui, avant.
En 2019, je crois, ou 2017, il y avait déjà eu là-bas.
Je connais pas du tout ce coin. T'as eu le temps de te balader ou tu es rentré dans le casino et t'as plus bougé?
Non, je suis rentré dans le casino, j'ai pas bougé, j'ai pas fait grand chose.
Tu peux pas me faire un Bristol touriste?
En vrai, la vue était magnifique.
Ah, la vue.
L'hôtel,
tu veux dire?
L'hôtel est exceptionnel.
L'hôtel et la vue.
Ah oui, l'hôtel exceptionnel.
T'as fait quoi? Tu peux nous raconter les tournois? Je pense que t'as fait un petit buy-in.
Ouais, quelques-uns. Ouais.
J'ai joué, je pense, tous les tournois, sauf le dernier qui était le 200 000. Mm-hmm. Parce que celui-là, c'est encore au-dessus, quoi, en termes de buy-in. Mais sinon, ça a commencé par 25 000. Il y a eu deux 25 000 au départ. Après un 30 000. Après un 40 000 mystery.
Mm-hmm.
50 000 que Adrian Mateos a gagné.
Ouais,
et derrière, le 100 000 où j'ai fini deuxième.
Mm-hmm.
Et après, le main à 125 000.
Pour 1,7 million de gains.
C'est ça.
Est-ce que tu feras en fin d'année, puisque c'est la grande tendance maintenant, donc je pose la question à un gros joueur, parce que tu es devenu un très gros joueur, le bilan fin d'année?
Non, je ne fais pas vraiment les
sorties. Ah, tu ne fais pas les entrées-sorties?
Non.
Bah, de toute façon, il y a plus d'entrées que de sorties en ce moment.
Ouais.
disons que là, je pense qu'il n'y a même plus une calculette qu'il faut, les gars. Là, c'est
du lourd. Tu vois, me dire, quand je te dis, on est toujours le pauvre de quelqu'un.
Ouais.
Et les 200 000, il ne peut pas les faire.
Justement, parce que.
Toi qui n'es pas si blindé sans terne. Il ne peut pas faire un 200 000.
Mais moi, en plus, c'est une question que j'allais lui poser. Parce que, en fait, c'est quasiment les mêmes joueurs qui jouent le 100 000. Alors, tu vois, quand tu fais le 100 000 et que tu prends 1.7 et que 200 000, c'est les.
Non, mais c'est vrai, sérieusement, il a raison, tu pourrais trouver quelqu'un pour te stacker.
Ouais, et je pense même que le 200 000 est plus facile qu'un 100 000. Parce qu'en fait, il y a des réguliers qui vont faire le 100 000 et qui vont pas faire le 200 000 parce que c'est encore un buy-in au-dessus. Alors que des récréatifs qui sont businessmen, etc., s'ils peuvent faire le 100 000, ils vont faire le 200 000 aussi, quoi. Donc, je pense que le 200 000 est plus facile, quoi. Mais après, ça reste un plus gros buy-in.
Ouais. Thomas, tu vas nous raconter tout ça et nous faire briller les yeux parce qu'on aime bien entendre toutes ces histoires-là. Je continue parce que on a parlé de gros casting, mais on n'a pas annoncé les autres.
Ah bah là,
donc on aura le patron. Il y a longtemps qu'il est pas venu. Je sais pas ce qu'il
boss,
fait. On
avec trois S.
Je sais pas. On a l'impression qu'il préparait je sais pas quoi.
Moi j'ai vu des photos.
Comme s'il a pas l'habitude de préparer les WSOP et que ça l'occupe autant.
Je l'ai vu en short sur Facebook déjà. Je crois que j'ai vu.
La chanson se met en short.
Ah je l'ai vu. Ouais.
Il est pas toujours en costume.
C'est mis deux fois, une fois contre Tony Parker.
Le patron se met en short.
Ouais, une fois contre Tony Parker et là je l'ai vu en short et plutôt.
Il a tenté le basket contre Tony Parker.
Ouais, il a même marqué un panier en gueulant comme moi je gueule.
Ça devait donner la scène dans Pauli et moi là.
Oh là là.
C'est comme lui qui essaye de jouer au basket.
Ah putain. Non mais ça va, il a bien drivé, hein. Il a mis un coup d'ange, c'était sympa.
Greg Chausson dans un instant avec nous. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir le boss avec nous. Petite surprise quand même.
Alors là, énorme.
Le meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison avec nous.
Ah ben ça.
Eh oui, parce qu'Éric Roy est aussi. Alors, nous on a du mal à l'avoir dans l'after foot, mais dans le RMC Poker Show,
on a eu tout le monde.
Ben oui, mais c'est normal.
Ils n'ont plus Ivy.
Il adore le poker, Éric.
C'est génial.
Donc ça nous fait plaisir. Peut-être qu'après cette formidable saison, parce que je crois savoir, on en a parlé un jour, je ne crois pas qu'il ait beaucoup joué au poker cette année avec la saison de malade qui l'a conduite à la tête de Brest. Peut-être que là, avec les vacances, il va se refaire une ou deux parties. Et quant à son rêve d'aller à Vegas. Ah non, mais il m'a l'air très busy. Hein. Je suis pas sûr qu'il puisse. Il y a quand même une grosse saison à préparer avec la Ligue des Champions.
Ah, il reste à Brest.
Oui, bah oui, il est qualifié en Ligue des Champions. Oui.
Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a de l'oseille qui rentre quand tu te qualifies pour la Ligue des Champions pour le club? Est-ce qu'il y a de l'oseille qui rentre?
Bah, tu lui demanderas.
Ah, bah, je lui demande.
Toutes tes questions très naïves sur le foot, tu lui poseras.
Ah bah, exactement. Marrer. Bah, c'est génial.
Ça va faire marrer.
Génial.
Harper sera avec nous.
Oui.
Harper de la maison, évidemment, de la
Harper
maison Winamax, de la maison RMC Poker Show, qui vient de sortir sur YouTube un doc autour de David Ikitaï.
Ouais, que j'ai vu.
The Life of Genius, en français, la vie du génie. Pas de poker, mais la vie d'un joueur, je pense.
La vie de Davidi.
S'il a choisi Davidi, il y a une vraie affinité entre eux et Harper aime beaucoup Davidi et l'admire même.
Ouais.
Et puis on donnera des news d'Adrien Mateos Diaz, même si Thomas vient de nous dire à quel point il avait brillé. Le WSOP, Jean Moin, qu'est-ce que t'as fait au fait, toi?
Alors, j'ai
d'accord,
fait
on a compris, rien.
Alors, j'ai fait le 550.
Non, mais
voilà. Quand il y a un E qui dure 3 secondes, c'est que c'est pas bon.
T'as fait quoi et qu'il y a le E qui dépasse les 2 secondes? Ça veut dire quoi?
Ça pue grave même.
Voilà.
Et non, bizarrement, tu sais, moi, j'aime bien ressentir du bon feeling et être bien dans une salle. Bon, j'ai fait 550. Je me sentais pas très bien, à vrai dire. Je me sentais pas très bien. Donc, j'ai dû annuler mon high roller.
Oui. Tu te sentais pas très bien?
Non, j'étais pas. J'ai pas le bon feeling.
Moundir, il arrive à pas se sentir bien.
Exactement.
Moundir, le colosse de Koh Lanta, il arrive à pas se sentir bien.
Non,
un petit rhume.
Non, je sais pas. J'ai pas senti une bonne vibe.
T'étais pas une écharpe dans le pied, comme Doumbé.
Non, c'était plutôt dans le doigt. Mais moi, je la retire. Alors, tu rigoles ou quoi? Je me suis déjà pris les oursins. Je peux te dire que je la retire avec les dents, moi, le truc.
Bon, on va accueillir le patron. Hein.
Ah ben là.
T'inquiète pas, on a compris que ça s'était pas bien passé.
Ouais, exactement.
WSOP Jean Boin pour toi.
Voilà.
Tu vas nous sortir une litanie d'excuses moisies là.
Pas du tout. Je peux le dire clairement.
Les excuses un peu là.
Bien tout bronzé.
De ton niveau, là, ça sort des excuses, genre je me sentais pas bien.
Pas d'excuses, moi je te dis.
Il y avait l'eau du robinet, était frelatée aussi.
Non, elle est oxygénée, elle était plutôt pas mal.
Ouais, on ne croit pas.
Voilà, j'ai pas chaté. Voilà.
On va acquérir le patron, mais alors je suis pas sûr qu'on fera parler de Thomas en même temps, parce qu'il me semble me souvenir que Thomas avait dit qu'il préférait gagner les tritons plutôt que les WSOP.
Exactement, je me souviens.
Donc, Thomas, fais-toi discret.
Il va y avoir.
J'ai peur que le patron ne veuille jamais te voir à Vegas.
Hein, merde.
Attention. Hein. Greg Chausson, bonsoir.
Monsieur Boss.
Salut à tous, comment ça va?
Ben nous bien. Bien et toi? Il paraît que t'as un petit tournoi qui démarre dans deux jours là, t'es un peu sous l'eau?
Ouais, un petit truc, ouais, c'est excitant. Ouais. Mais 10e World Series, donc non, c'est cool.
Tu
bon
fais
anniversaire,
pas, hein.
Bon anniversaire, Greg. Est-ce que c'est alors toujours la même excitation? Oui, c'est plutôt ce que j'allais te demander. Comment dire? T'as l'habitude maintenant. L'événement, tu vois comment il se déroule. T'arrives à plus les années passent, plus tu peux anticiper. Tu arrives encore à avoir l'adrénaline, le petit stress avant que ça démarre?
Ouais, on essaye à chaque fois de se trouver un petit stress. Donc l'année dernière, c'était le record. Cette année, la grosse nouveauté, c'est qu'on a rajouté 100 tables, en fait. 100 tables, c'est beaucoup, en fait. On se rend plus compte au World Series, mais on passe de 600 à 700 tables. On a deux nouvelles salles. Mm-hmm. Et donc, en fait, ça nous met une petite excitation en plus, puisqu'on a, on a des nouvelles salles à gérer. Et voilà, ça fait des nouveautés. Donc, comme tu dis, il faut se renouveler.
Est-ce que le fait de rajouter 100 tables, alors bien évidemment, Greg, c'est juste monstrueux, mais est-ce qu'il y a des croupiers? Parce qu'à une époque, on avait une échange ici au RMC Poker Show où tu disais que même en doublant ou en triplant leur salaire, vous ne trouvez pas de croupiers. Est-ce que ça a été le cas?
Ouais, là, ça s'est beaucoup mieux passé cette année. Je pense que l'après-Covid était un peu compliqué. Et là, l'année dernière, c'était tellement bien passé qu'on a eu beaucoup, beaucoup de demandes et normalement, on devrait être bien cette année. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ouais.
Alors. C'est la 55e édition des WSOP, les championnats du monde, historiques, légendaires, mythiques. La première édition, c'était en 1970, année de ma naissance. C'est pas rien, je pense qu'il y a un lien. Je pense qu'il y a quelque chose quand même.
On a que 3 ans d'écart, Dan.
Ouais. 28 mai, 17 juillet.
Ouais, c'est les dates.
99 tournois. J'ai l'impression que chaque année, tu en rajoutes, Greg. Ouais, faire attention à un moment à l'explosion quand même. Hein. Le main event va débuter le 3 juillet. C'est le record, évidemment, que... Enfin, le tournoi qui est le plus attendu. Ça y est, t'es qualifié, toi, de toute façon, dire.
Oui, j'ai gagné un package side event à 7K sur Wina.
Bravo, voilà. Bravo. Donc tu y seras, mais faut démarrer, c'est le 3 juillet.
Et ouais, et moi ça sera.
Et faut aller au bout vers le.
Plus y affinité.
7-8 jours plus tard.
Voilà, moi j'y suis jusqu'au 12 juillet. Voilà, et puis si on pousse, c'est mieux. Voilà.
D'accord. Record à battre. Greg en a parlé l'année dernière. C'était un petit peu le défi. Il a été largement à la hauteur du défi, Greg et tous ses amis de l'organisation WSOP, avec 10 043 joueurs. Je ne sais même pas si on peut encore envisager de faire tomber ce record, Greg. C'est possible, ça, encore? Ou on est quand même arrivé à un...
Ouais, j'imagine. Le problème, c'est que quand tu bats un record, oui, tu penses le battre tous les ans maintenant. Donc, ouais, surtout, on a passé la barre mythique des 10 000 joueurs. Donc, il ne faudrait pas redescendre en dessous. Ça serait frustrant. Donc... on a essayé, on a encore plus de qualifiés sur Internet que les années précédentes. Donc, on croise les doigts.
Combien de qualifiés vous avez?
GG, ils sont passés de 800 à plus de 1100 qualifiés pour le main. Donc, ça fait 300 joueurs de plus quand même. C'est pas négligeable.
Non, c'est sûr, c'est pas négligeable. Moi, j'ai une question, Greg. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez plus rien à prouver parce que WSOP reste une marque emblématique et c'est la marque pour nous qui fait référence quand on est champion. Les choses améliorées, est-ce que je me souviens des queues monstrueuses, ouais, malgré que vous ayez un dispositif qui est quand même ultra, ultra, ultra pro. Est-ce que il va y avoir moins de queues?
Il y a tellement de gens. Comment tu veux résoudre ce truc?
Alors justement, comment est-ce que ça, bien sûr, vous en avez pensé? De quelle manière on peut améliorer ça?
C'est comme le surtourisme, hein, c'est comme à Venise ou à Portofino. Au bout d'un moment, je sais pas comment tu peux faire.
Non, mais à Venise, je veux dire, quand il y a plus de bateaux, il y a plus de bateaux. Je veux dire, tu
rigoles, ils n'arrivent pas à régler le problème du surtourisme. Et Vegas, c'est le succès, le succès des WSOP.
Non, on c'est vrai que l'année dernière et puis on essaye de travailler chaque année pour éviter les files d'attente. Alors c'est vrai qu'aux inscriptions, on a quasiment résolu le problème, notamment avec les inscriptions sur le téléphone online. Tu peux, t'es plus obligé d'aller faire la queue. Le souci qu'on avait encore les dernières années, tu sais, c'est les réinscriptions ou les late reg. Et ça, c'est vrai que quand t'as des milliers de joueurs qui arrivent pendant la journée, c'est pas facile à gérer. Tu sais, il faut que les tables se libèrent pour que les joueurs puissent rentrer, tu vois. Ouais. Les places sont pas disponibles quand les joueurs réentrent. Donc c'est plutôt cette gestion-là de flux de réentrée qui est compliquée à gérer, sur laquelle on a travaillé cette année. On a eu quelques solutions techniques notamment, mais c'est vrai qu'à terme la solution, c'est que tu puisses te balader et qu'on te dise quand ta place est prête et que tu puisses revenir t'asseoir, tu vois. Mais quand on n'a pas la disponibilité du nombre de tables quand tu te réinscris, malheureusement il y a pas vraiment de solution en fait.
Non, forcément, parce que là il va y avoir un 400 le 28 juin, donc c'est le 400 je crois Colossus ou Gladiateur, pardonne-moi si je me trompe. Vous attendez à peu près, il va y avoir quoi, 30 000 joueurs facile, 20 000.
Ah, exagère pas non plus.
Ah bah écoute,
t'en fais trop, Mounir.
Non, j'en suis sûr. 20 000, j'en suis sûr.
Un peu trop.
Écoute, il y a eu 10 000.
Va mal le prendre.
Il y en a eu 10 000 pour le main event. C'est obligé qu'à 400, il y en a 20.
Oh, c'est vrai qu'on nous pose la question, pourquoi vous continuez à faire ces petits buy-in qui en fait ça devient ingérable. Et en fait c'est quand même notre marque de fabrique. C'est-à-dire que oui, on a le tournoi à 10 000, on a les high rollers, mais on a aussi ces tournois massifs qu'on est les seuls à pouvoir faire, tant en capacité qu'en organisation. Donc c'est un défi à chaque fois, mais ouais, après on se prépare pour, mais c'est vrai que 400 c'est des buy-in tellement accessibles au WSOP que ouais, ça va être compliqué, mais on va en... On est confiant.
Bon, Daniel, il demande, est-ce que son ami va venir cet été? Un super ami à Daniel qui joue au foot au Brésil.
Lequel? Ah oui,
j'avais
pas compris.
Il est en train de me regarder.
Ah oui, c'est vrai, Greg, on a vu qui comme star alors cette année?
Tony Parker, un truc comme ça, ils reviennent ou pas?
Mundir.
Ah voilà! Là, tu fais plaisir!
Donc, me dis pas que t'as pas de star NBA
si,
ou.
Si, il y a des footballeurs, argentins, brésiliens. Ouais, apparemment qui vont venir et même cette année olympique on attend quelques champions. Ouais. Les footballeurs toujours.
Neymar a annoncé sa venue, Sergio Aguero j'imagine.
Voilà. Ouais, tu connais les classiques. Ouais, peut-être même un acteur américain qu'on attend, assez connu.
Matt Damon.
Matt Damon.
Je croise les doigts.
Ah bah super.
Non, mais tu sais ce qui se passe avec les années, bah, t'as bien vu, c'est que maintenant la plupart des célébrités en fait elles ne préviennent pas forcément en fait. Y a beaucoup de personnes qui se pointent là et sans prévenir en fait et voilà. Donc
il faut que tu organises la venue du meilleur entraîneur de Ligue 1. On va la voir dans un instant.
Oui. Incroyable cette saison. J'ai suivi ça.
Et tu sais, enfin, lui est vraiment vrai passionné de poker. Hein.
Eh ben, je mettrai le maillot de Brest quand il vient.
on va l'avoir dans un instant. On lui dira qu'il faut absolument qu'il vienne. Non, il y a un vrai problème. Je sais pas comment vous allez le gérer. En revanche, avec toute ton équipe et tout ça, je sais pas sur quoi ça va jouer. Sur est-ce que c'est l'affluence, est-ce que c'est une année noire pour vous qui se prépare. Mais le fait que je vienne pas, comment c'est géré?
Ah oui, on en a parlé. Hein, on a eu plusieurs réunions à ce sujet.
Ouais.
Et donc. Non, c'est vrai. On m'a dit, c'est quoi les dates de Daniel? J'ai dit, tu sais, il a peut-être un créneau entre l'Euro, les Jeux Olympiques, je sais pas. Et
Greg, tu savais à quel point ça me fait mal au cœur.
En tout cas, si on bat pas le record, c'est parce que t'es pas venu, en fait.
Bien sûr, parce que, avec tous les gens que je draine derrière moi.
Mais c'est énorme.
Mais franchement, si le record est pas battu, je cherchais pas l'explication.
Imagine, il manque en plus, s'il manque deux personnes.
J'imaginais que t'aurais sur un Denmob chaque année ton petit drapeau, normalement. Donc,
C'est
décevant.
Exactement.
Mister des deux.
Moi, ce que je propose à l'organisation WSOP, c'est que devant la tristesse de constater qu'ils ne battent pas le record, et donc forcément l'explication, ce sera mon absence, l'année prochaine, ils m'invitent. Il me paye le buy-in du Maine.
C'est un deal.
Parce que Greg devra aller voir l'organisation. Il devra dire, écoutez, il n'y a pas d'autre explication possible.
Alors écoute-moi, s'il t'offre le Maine, je me circoncis une deuxième fois. Je vais chez Michel Cohen. Clinique des Champs-Élysées, je me recoupe.
Michel Cohen, il a encore gagné.
Ben, j'ai vu, ouais, bien sûr.
Il a fait gagner autant.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça la roulette.
Non, la roulette.
J'ai bien compris.
Moi, au PEC, je crois.
Le boss n'a pas répondu. Boss, vous avez la réponse.
Laisse-moi réfléchir. Il a un an pour réfléchir.
Ah, il a un an, d'accord.
Je vais réfléchir.
D'abord, il faut qu'il voit si le record va effectivement pas tomber. Ça. Et puis, une fois qu'il constatera ça, il devra tirer les conclusions qui s'imposent.
Il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui que le record tombe. Parce qu'il est tombé déjà 10 043 joueurs. En plus, c'était pour un événement qui était très important. Je crois que c'était les 50 ans des WSOP. C'est bien ça, lorsqu'il est tombé le
Non. 50 ans, c'était en 2019. Non.
D'accord.
C'était juste qu'on voulait. Ça fait un moment qu'on était tout près du record. Si tu te rappelles, à 8 000 quelques. Et en fait, on est passé de 8 007 à 10 000 directement, sans passer par 9 000. Donc c'est vrai que ça fait un gap énorme. On va voir l'année d'après, mais encore une fois, il n'y a pas de raison pour pas que ça se passe bien. Le poker se porte bien, tous les tournois chez nous sont en hausse. La crypto-monnaie se porte bien.
Thomas, t'entends tout ça là, WSOP, ça te donne toujours pas envie là? Tu crois toujours que un jour il faudra quand même que tu vois si c'est possible.
J'ai très envie de venir au WSOP. C'est un souci de visa pour les WSOP.
Non, mais ça j'entends bien. Tu nous en avais un petit peu parlé, mais je veux dire plus globalement, c'est quand même quelque chose. Tu nous disais que les
titres. Il était au Bahamas quand même, Thomas.
Ouais. Mais je peux aller au Bahamas.
Il a bien profité des Bahamas d'ailleurs.
Cette histoire comme quoi tu nous avais quoi dit que le Triton, un titre Triton, tu semblais que ça avait plus de valeur.
Je disais que pour moi un titre Triton, je trouve ça un peu plus accessible. Il y a moins de joueurs sur les tournois. Alors que quand tu fais un WSOP qui a 10 000, 15 000 joueurs, c'est un peu plus dur d'avoir un bracelet quoi.
Oui, mais c'est quand même aussi ça la force de ce tournoi qui reste quand même d'abord accessible pratiquement à tout le monde parce qu'on peut se qualifier pour $1. Hein, arrête-moi si je me trompe, boss. Et en même temps, c'est que les Tritons, même pour un joueur récréatif, il y a que la tablette pour te regarder faire les TF ou autre. Et on peut pas se qualifier pour jouer les Tritons pour 200 balles ou 300 balles.
Ouais, bien sûr. Après, pour moi, Triton c'est un peu plus important, je trouve, en termes de valeur.
De prestige, ouais.
Ouais, de prestige. Parce que dessus, quand il y a 100 joueurs sur les Tritons, il y a les 70 meilleurs du monde, quoi. Alors que sur les WSOP, il y a 10 000 joueurs, il y a un peu de tous les profils. Mais c'est juste deux choses différentes pour moi, mais j'aime autant l'un que l'autre, quoi.
Mais néanmoins, je pense que Greg Chauchon, qui travaille depuis des années au WSOP, je pense que les Tritons sont un phénomène nouveau parce que je ne crois pas que dans sa carrière à la direction d'une institution si forte de poker, il a souvent entendu dire que quelque chose pouvait motiver plus que le WSOP. Je parle là simplement en termes de business, de communication. C'est quand même un vrai phénomène, cette histoire de Triton, Greg, n'est-ce pas?
Ouais, on est très copains avec eux, on se connaît très bien avec les propriétaires de Triton, on se parle souvent. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable en termes d'événements, de qualité, de streaming, les applications qu'ils ont développées. Franchement, sur beaucoup de choses, ils nous inspirent. Et je comprends ce que veut dire Thomas. Ce qu'il veut dire, c'est que sur leur tournoi, il y a les meilleurs joueurs du monde en permanence. C'est-à-dire que chaque tournoi Triton, c'est un championnat du monde en termes de niveau. En revanche, quand il parle de prestige, je mettrais une différence parce qu'en fait, quand tu gagnes un Triton, tu vois, la semaine d'après, tout le monde l'a oublié. La différence que t'as avec ton bracelet, c'est que ça sera marqué pour toujours que t'as gagné un bracelet. Et ça, les gens s'en souviendront. Donc, c'est juste la petite différence que je ferais. Et d'ailleurs, si tu demandes aux gens de Triton, tous, leur rêve, c'était de gagner un bracelet, hein, dont les propriétaires de Triton. Donc, ouais, je comprends en termes de niveau. Par contre, si tu viens jouer le 100 000 ou le 250 000 chez nous, t'auras les mêmes joueurs qui sont au Triton, à l'exception peut-être justement des récréatifs, tu vois. Donc, sur un ou deux tournois, on se rapproche de Triton, mais ouais, c'est franchement ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire.
Très bien, Greg. Eh bien, écoute, bon WSOP. Je pense qu'on va quand même se reparler d'ici la fin. Tu vas nous raconter un petit peu l'évolution, même si t'es quand même tellement débordé. Je sais pas si tu auras quelques minutes pour nous pendant.
Heureusement qu'il y a fait. On va faire l'émission à distance. Hein.
Eux seront sur place.
Eh oui,
moi, malheureusement, j'ai peur de ne pas y être. Tu vois, même d'ici de Paris, Greg, tu ne remis pas le couteau dans la plaie. Ça me fait beaucoup de
mal. Non,
mais
tu fais tes choix. Tu sais, dans la vie, on fait des choix, il faut les assumer.
Exactement. Surtout, réfléchis bien, boss, pour les 10K. Réfléchis bien. Parce qu'il ne va pas oublier. Hein. Il ne va pas arrêter de me parler de ça.
Allez, le premier tournoi, c'est dans deux jours, précisément, le 28. Bon WSOP, Greg, je ne doute pas que ça se passe super bien. Tu vas être un mois et demi sous l'eau, mais
j'en suis sûr.
Tu le sais, ça vaut le coup. C'est le grand moment poker de l'année. Accueille bien les amis, mais tu vas le faire, évidemment.
Bah oui, comme d'hab.
Et voilà, j'ai presque.
Merci à vous
une
et pour votre bienveillance.
Raté ça. On t'embrasse, Greg.
Merci, Greg. Bonjour à la boutique pour moi. Passe un bonjour à la boutique, j'arrive.
On ouvre demain.
Génial.
Est-ce que la table chez Gabi est réservée?
Ah oui, j'ai même envoyé un message.
Le rond de serviette.
Oh là là là. Arrêtez, vous me faites mal. Arrêtez. On revient dans pour la deuxième partie du RMC Poker Show. Thomas Santerne est avec nous et Eric Roy sera avec nous.
Génial.
Aussi avec nous, le coach de Brest.
À tout de suite.
Envoi plus prix du SMS.
Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mundir.
Le RMC Poker Show, la deuxième partie. On vient de quitter le boss des WSOP, Greg Chauchon. Thomas Santerne est toujours avec nous en studio. Il revient du Monténégro. Les Tritons se sont plutôt bien passés pour lui. Deuxième du 100K. 100K. Ouais, un buy-in à 100K.
Ouais, 100K.
C'est pas demain la veille que tu vas jouer ces tournois-là, toi.
Non, c'est ni après-demain la veille. Hein. Pour le coup, non, je te le dis, 100K. Non, c'est...
Quelque part, ça peut un peu ressembler à une petite équipe qui aurait joué à la Ligue des Champions. De façon totalement inattendue. Oui. Un monde qui n'est pas le sien. Oui. Pas si tu y allais, hein, pas Thomas. Thomas, lui, il est 100K, c'est son monde. Mais toi, demain, si tu allais au 100K, tu serais un peu Brest en Ligue des Champions.
Non, mais tu sais qu'on s'habitue à l'oseille. Hein. Quand tu fais 100K.
Tu veux dire que Brest va s'habituer à la Ligue des Champions?
Bah, je pense que oui. Hein, ils vont... Non, mais ça va être sûr. D'ailleurs, pour parler de chatte, c'est de la chatte. Hein,
c'est voilà. Ta petite. Mais c'est pas de la chatte, ça va pas, lui dis pas ça. Hein. J'espère qu'il t'entend.
Mais
pas,
non, mais faut dire ça. Mais tu vas pas que je
plaisante. Fait une saison de ouf.
Mais ouais, mais c'est pour ça que je On a eu beaucoup de discussions là-dessus. Est-ce que dans le sport professionnel, il peut y avoir de la chatte? On a dit,
pas sur 38 journées.
Pas sur 38 journées, on est d'accord. Bon, voilà.
Et tu peux sur un match, tu fais un braquage.
Et encore, hein.
Mais c'est exactement comme au poker, hein. Tu chattes un tournoi un soir, tu peux. En revanche, si tu joues toute l'année et que tu obtiens des résultats de façon récurrente, à mon avis, c'est que tu sais jouer. Voilà.
D'accord.
Je pense qu'on va accueillir Eric Roy sur cette très belle introduction.
Ah, bah oui.
Il est en direct de Monaco. Monaco, c'est un petit peu son rayon d'action.
Ah ouais, pourquoi?
À Brest, c'est le travail.
Ouais, Monaco.
Il est niçois, hein, donc.
C'est là où on cache l'argent. Non, mais c'est
Eric, bonsoir. Comment ça va?
Salut les amis, comment ça va?
J'ai l'impression que tu profites bien de cette saison. T'es allé à Monaco. Je sors que t'as croqué le Grand Prix. Avoue que t'as croqué le Grand Prix aujourd'hui.
Il y a que ça à faire, là.
Écoute, bien sûr. sûr que je suis sur un bateau, pour vous dire.
Oh là là.
Donc, je me demandais comment j'allais faire l'émission, mais bon, moi, gentiment dit, va l'avant, là, tu seras un petit peu plus tranquille. Mais c'est vrai que c'était un très beau Grand Prix, en plus avec la victoire de Charles Leclerc, que j'adore, moi, c'est ouais. mon pilote préféré. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir, en plus de voir un Monégasque gagner à Monaco. Donc voilà, mais bon, moi je suis surtout niçois, hein, donc je suis à Monaco, effectivement, parce que je suis en voisin, en fait.
Ouais, mais effectivement, c'était une magnifique après-midi. J'ai regardé le Grand Prix aussi. Quand un sportif accomplit le rêve de sa vie, je pense qu'on assiste à un grand moment. Et ce qu'a fait Charles Leclerc aujourd'hui, c'était absolument énorme. L'émotion du prince, son émotion à lui. J'aurais bien aimé être avec toi pour assister à ce grand moment, Eric. Et toi, un grand moment, t'en as vécu cette année avec Brest. T'en as beaucoup parlé, même avec nous, dans l'after. Si tu viens de l'RMC Poker Show, c'est aussi pour ta passion du poker. C'est un jeu que tu adores. J'imagine que cette année, t'as pas dû beaucoup jouer quand même, hein.
Non, c'est vrai, j'ai pas joué du tout. Mm-hmm. Il m'arrivait de temps en temps en me disant, tiens, pour m'endormir, je fais une petite partie sur Winamax. Mais bon, quand tu fais ça, bah, ça va très très vite, hein. C'est juste pour se changer les idées. Mais bon, c'est vrai que non, j'ai pas du tout joué, j'ai pas du tout travaillé mon poker. Et c'est vrai que ce serait quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir, mais bon, peut-être quand je serai retiré du football.
Alors, tu sais qu'on était il y a 5 minutes avec le patron des WSOP à Vegas et ouais. il t'accueille quand tu veux. Hein.
Ah bah voilà, écoutez, déjà je voulais me faire inviter à Marrakech, mais bon, c'était compliqué pendant les vacances. Hein.
Et là, t'aurais pu venir cette semaine, là t'es totalement en vacances. Voilà. T'aurais pu venir faire une partie quand même.
J'aurais pu venir, mais le problème c'est que voilà, j'avais des choses aussi à faire. Quand tu passes pas toute l'année chez toi, bah c'est vrai que
oui.
Bah, quand tu reviens, bah il faut voir la famille. Mmh. Voilà, ça tombait mal, mais je sais qu'on m'aurait invité avec plaisir. Donc mais je retiens à Las Vegas, j'irai certainement un jour.
Ah, il va falloir que tu le fasses.
Ah bah écoute, avec grand plaisir.
Dire avec ce qu'il a dit, c'est bon, sa connaissance du football étant un peu limitée, il s'est demandé, il a posé 2-3 questions sur la saison de Brest. Bah, mais il n'y a pas de honte, hein, quand on ne sait pas, on ne sait pas.
Non,
j'ai entendu.
Bon, Eric, déjà bravo pour ce résultat magnifique. Moi, je dis souvent que dans le milieu professionnel, il peut pas y avoir de chatte, comme on dit au poker.
Il y a 2 secondes, il disait le contraire.
Attends. Parce que moi, j'ai pas suivi la saison, hormis les gros derbies et compagnie. Parce que je disais à Daniel justement en off, je disais mais quelle est la star qui joue à Brest. Et ma question est la suivante. Comment t'as réussi à fédérer tous ces joueurs qui ont pu tenir tête à tous ces mastodontes qu'il y a comme le PSG, l'OM et compagnie, et que vous finissez dans le top 3?
Le mec le plus connu de Brest, c'est lui.
C'est vrai.
C'est lui la star de Brest.
Non, mais comment t'as réussi à les fédérer? Parce que
la réponse est simple, en fait, Mounir. La star, c'est l'équipe.
Bravo.
Et c'est bête à dire, et c'est... Ça peut être un peu bateau, mais on est une véritable équipe. Et on a joué en véritable équipe tout au long de la saison. Et c'est pas si facile que ça, parce que quand tu as entre 20 et 25 mecs à gérer tout au long de la saison, à manager, c'est difficile aussi d'emmener tout le monde dans le projet, parce qu'il y en a que 11 qui jouent, qui démarrent les matchs. Il y en a 4-5 qui peuvent rentrer en cours de match. Donc voilà, il faut arriver quand même à fédérer les énergies. Et c'est vrai que, tu vois, à l'image de notre dernier match qui nous permet de nous qualifier en Ligue des Champions, il y a un garçon qui n'a pas joué un match de la saison qui s'appelle Jordan Amavi et qui a été très bon, qui a fait juste ce match-là parce que le titulaire a été suspendu. Et en plus, il a marqué. Donc voilà, c'est l'esprit aussi que je voulais donner à cette équipe. Et je pense jusqu'au dernier match, elle a montré effectivement cette solidarité et cet esprit de compétition. Donc vraiment, félicitations aux joueurs.
Qu'est-ce qui va changer? Alors moi, c'est une question... Alors moi, j'aime bien parler d'oseille parce que forcément...
pose-lui ta question d'oseille qui était ridicule. Elle était assez drôle finalement.
Non, mais alors, pourquoi tu dis ridicule? Elle était drôle.
Parce que je pense que tu vois, pour un photo, ça va le surprendre.
Okay. Je ne sais pas. Quand on se qualifie justement pour la Ligue des Champions, est-ce qu'on reçoit de l'oseille pour le club?
Alors, il y a deux choses. Il y a le classement déjà du championnat qui fait que tu as des redistributions, notamment par rapport aux droits TV, tout ça, qui sont plus importantes. Plus tu es classé haut dans le... Par exemple, j'imagine que Brest a budgétisé certainement une 15e place. Une 15e place, ça correspond à un certain nombre d'argent. Et quand tu es 3e, ben, c'est beaucoup plus d'argent que la 15e place. Quoi, tu vois.
D'accord, donc de YouTube,
après,
vous passez
plus,
à...
Quand tu te qualifies après... pour une Ligue des Champions, comme nous, eh bien, il est évident que là, il y a des droits TV de l'UEFA, donc qui sont redistribués au club, et il est évident qu'ils sont importants et qui profitent d'ailleurs aux joueurs, parce que les joueurs ont des primes quand ils font des, quand ils font, ben, des
résultats. Je savais pas tout ça.
Des joueurs en déprime, donc, et après, bien sûr, le club, ben, gagne un peu plus d'argent, ce qui permet justement, peut-être, d'avoir un peu plus de moyens pour recruter, quoi.
Bon, je pense que tu vas passer moins de Brest, hein.
Mais moi, j'ai pas du tout de problème. Moi, je suis très, j'en parle souvent avec mes joueurs, hein. On est des professionnels et l'argent n'est pas du tout tabou. Et moi, je disais souvent, et je le dis souvent dans le vestiaire, moi, le mec qui se comporte mal dans le vestiaire, qui est pas sérieux, qui est pas, c'est peut-être le mec qui va me faire de la, perdre de l'argent à la fin de la saison. Parce qu'à un moment donné, on a besoin que tout le monde soit à 100% concentré sur son métier, sur son travail, et qu'aujourd'hui, on est des professionnels et que comme toi, quand tu vas dans un tournoi de poker, tu vas en tant que, allez, peut-être pas professionnel, mais semi-professionnel, et tu vas aussi pour faire un résultat et
pas évidemment.
Pour participer.
Bien sûr.
C'est-à-dire, donc, je t'ai suivi, notamment, je crois que c'est où, t'es à Bratislava ou je sais pas.
Bratislava,
où,
exactement, dans la tête de Mondia. Voilà. Ah, merci.
Non, mais tu vois,
ah, c'est génial, Eric Fois m'a regardé, c'est beau ça.
Et là, il a pu constater que sur ce tournoi, t'as eu de la chatte.
Espèce de. C'est vraiment. Je connais depuis 10 ans, t'as vu ça, ça c'est de l'amitié, t'as vu.
Ouais, ouais. Ah, je suis aussi Daniel, mais un peu moins souvent, quoi. On n'a pas vu encore dans la tête de Daniel.
C'est trop compliqué, ils n'arrivent pas à faire le programme.
Tu peux voir, il y a un petit shot où tu vois Daniel en train de jouer au WSOP. Bon, c'est un petit bout dans la tête de Daniel. Hein, c'est... En tout cas, félicitations parce que c'est, ça fait vraiment plaisir. Hein.
Écoute, c'est sympa, je vous remercie. Mm-hmm. Mais bon, c'est vrai que c'est, quand il y a des choses exceptionnelles comme ça qui se passent, il est évident que c'est. C'est super valorisant déjà, c'est super, c'est pour les joueurs, c'est fantastique, et c'est vrai qu'après, pour le staff que nous, on est, pour les avoir encadrés, pour essayer de les avoir guidés, ben, c'est une super récompense à la fin, quoi.
Je disais tout à l'heure, effectivement, je sais pas, c'est difficile de faire ce genre de comparaison, mais ce qu'a fait Brest cette année, c'est peut-être pas moi, parce que ce sont quand même des professionnels, mais on va dire, c'est toi qui fais une table finale au Main.
Ah ouais?
Ouais, quand même, ouais. Ouais, mais c'est vraiment, faut se rendre compte, c'est énorme ce qu'ils ont fait.
Brest, qu'ils sont
même
Lyon.
Historiquement, si tu compares toutes les époques, historiquement, le niveau de l'équipe, machin, ils ont fait un truc. Il y a eu souvent des surprises, mais pas qui tiennent toute la saison. Ils ont vraiment fait un truc qui est, je te dis, ça peut ressembler à toi qui ferais une table finale, ouais.
Et qui la gagnerait, bien sûr.
Ah, c'est, ils ont pas gagné le championnat.
Non, c'est vrai, un joueur amateur qui s'inscrirait dans un gros tournoi et qui, effectivement, irait jusqu'au bout. Alors, on parle souvent un petit peu de comme ça, de d'une fois dans une vie de réaliser quelque chose.
Ouais, c'est un peu le one time, c'est le one time que t'as fait, Eric.
Ouais. Le one time, alors c'est vrai que quand on parle de one time, moi ce que j'ai envie c'est que ça soit le one more time, tu vois. Ah, oui. On n'a pas envie de rester là sur ça, donc c'est vrai qu'on va vivre, je pense, une saison exceptionnelle parce qu'on aura un match de Champions League. Ça peut être très casse-gueule aussi, parce que forcément ça va être un niveau qui va être un niveau bien supérieur encore à ce qu'on a connu cette année en Ligue 1 avec les grosses écuries de la Ligue 1. Mais en même temps, on l'a volé à personne, donc on va essayer de profiter à fond et en tous les cas de continuer à montrer en tous les cas nos vertus, nos valeurs, et cette équipe qui, j'espère, va encore progresser. Et puis après, advienne que... On verra bien, mais en tous les cas, on va essayer de croquer dedans à plein dedans.
Ouais, je pense que tu as encore des belles soirées pour t'éclater, Eric. Là, c'est le moment du repos pour toi, de bien profiter de ce gros succès. À quel moment tu vas te remettre à bosser pour préparer la prochaine saison, tout ça?
Bah, le problème, c'est qu'on n'arrête jamais réellement de bosser parce que le téléphone sonne, parce que ci, parce que ça. C'est vrai que moi, j'ai envie de couper au moins. Alors, par rapport au fait qu'on est passé à 34 équipes maintenant en Ligue 1, les saisons recommencent un peu plus tard. Cette année, c'est le 18 août, je crois, le premier match. Le week-end du 17-18 août, je crois. Avant, on commençait toujours le premier week-end d'août, donc c'est souvent le 6-7. Donc ça veut dire que cette année, en ayant terminé tôt, par rapport à ce championnat 34, et en plus avec le championnat d'Europe, je pense que dans ma carrière de footballeur et même d'entraîneur, je n'aurais jamais eu autant de vacances. C'est-à-dire là, c'est un mois et,
ouais,
et 7-8 jours, quoi. Mais en même temps, en reprenant le 1er juillet, j'aurais jamais fait une préparation si longue, parce qu'on va avoir 7 semaines de préparation. Moi, ça m'est jamais arrivé, donc 7 semaines de préparation, voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien planifier. Donc voilà, on va se parler rapidement avec le staff, faire des visios un petit peu pour. On l'a déjà mis en place en gros, mais après vraiment dans le détail pour entrer, pour essayer d'équilibrer la charge de travail tout au long de ces 7 semaines pour pouvoir. Arriver au premier match du championnat, déjà préparé, quoi.
Vous avez déjà fait les listes des potentiels arrivés, des joueurs que vous avez envie de faire venir?
Alors ça, c'est le rôle de Greg. Mm-hmm. Alors, on parle que Greg va partir. Mm-hmm. Pour l'instant, moi, il ne l'a pas dit. Donc, je pense que s'il partait, je pense qu'il m'aurait dit. On a une assez bonne relation pour que ça soit le cas. Donc, je sais que ça a été annoncé hier définitivement là par la presse française que Greg Lorenzi partait. Mm-hmm. Pour l'instant, moi, c'est en tous les cas pas ce que je pense. Mais bon, après, on verra. Mais c'est vrai que ça, c'est surtout son
travail.
Mais
tu veux dire quoi? Tu veux dire que s'il te l'a pas dit, alors que vous avez une bonne relation et que la presse, là, nous en tout cas, on ne l'a pas annoncé, il ne me semble pas chez nous. Mais ça veut dire
non,
que tu serais déçu si tu apprenais qu'il partait maintenant parce qu'il t'a pas dit.
Non, je ne serais pas déçu. Je dis juste que s'il partait, je pense que je le saurais déjà.
Donc pour toi, il ne part pas.
Donc je pense que pour l'instant, en tous les cas, au moment où on se parle, pour l'instant, pour moi, il ne part pas. Maintenant, peut-être que demain, il va m'appeler et il va me dire effectivement, je m'en vais. Ça, c'est possible. Et à ce moment-là, bah, il faudra bien qu'on se réorganise.
Absolument.
Il est évident que lui, en étant l'architecte un petit peu de ce club depuis maintenant 8 ans, et on sait qu'on travaille ensemble depuis un petit moment aussi et qu'on travaille effectivement à renforcer cette équipe, en tous les cas, et essayer de l'imaginer pour la renforcer. Donc, c'est surtout lui, effectivement, qui travaille là-dessus. Et c'est très bien comme ça parce que chacun a son travail. Moi, je suis là pour... faire performer les joueurs qu'il met à disposition et lui est là pour essayer de renforcer l'équipe.
Merci beaucoup Eric.
Merci Eric.
Voilà.
Profite bien, repose-toi bien. Tu vas croiser Jérôme ou pas là?
Alors, petite confidence, on a joué hier au poker.
Voilà, vous êtes fait une petite partie.
Ouais, une petite partie à la maison. Bah ouais, quand je suis là.
Tu les as rasés ou pas?
Une petite partie quand même. Non. J'ai vraiment été inspiré et puis pas très bien servi. Mais bon, Jérôme a fait quatrième, il a pris un petit bonus.
Ça va.
Jérôme, c'est Jérôme Alonso. Hein.
Jérôme
Alonso. Et c'est vrai que, d'ailleurs, tous les deux, vous avez participé à une de nos parties des Palabrades qu'on appelait pendant le Covid. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Bien sûr.
Vous avez joué à un moment donné.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est toujours un peu la même bande et puis on essaie de s'amuser. Mais si le poker est plus prétexte de se retrouver, de faire une bonne bouffe.
Absolument.
Plus de s'amuser, quoi. Mais bon, après, si on peut gagner, c'est toujours mieux. Hein.
Oui, le poker, c'est souvent comme ça que ça se termine. C'est la bonne phrase. Merci beaucoup, Eric. On t'embrasse. Bon courage à toi.
Salut, Eric.
Bye bye.
Ciao. Merci. Au revoir. Bye bye.
Voilà, l'exploit, Eric Roy.
Énorme. Moi qui aimais bien le dessert, en plus, je peux le dire, Paris-Brest. Ouais, ça va, c'est bon.
Et donc, ça n'est pas le frère de Patrick Roy, comme tu croyais.
Ouais, mais il y a aussi un joueur de poker aussi qui a gagné le premier partouche poker tour.
Ah oui, Alain Roy, bien
exactement,
sûr.
Donc,
exactement.
Croire que le mot Roy finit par bien.
Tu ne suis pas du tout le foot, Thomas?
Non, pas du tout.
Aucun
pas
sport.
Non.
Poker 100%.
Poker et.
Destin quand même complètement foot. Tu avais quand même discuté de ça avec nous la dernière fois déjà. Rien ne semblait devoir te destiner à jouer des tournois aussi importants. Comment s'est faite la bascule? C'est vrai, des fois, on lit des choses, on se demande si c'est pas de la légende tellement c'est gros. Il y a 2-3 ans, tu jouais vraiment que des 5 euros sur Winner?
Ouais, il y a 3 ans, je jouais vraiment que des 5 euros. Je travaillais dans un magasin de décoration ou à l'usine à ce moment-là. Je touchais 1400 par mois en intérim et je mettais 300, 400, des fois 600 balles.
La bascule en fait.
La bascule, bah,
c'est 2-3 ans, c'est une icône de passer à faire des buy-in à 100 000 alors qu'il y a 3 ans, tu faisais des buy-in à 5 euros.
Ilzidur, je sais même pas s'il a fait ça.
Je sais pas non plus.
C'est quoi la bascule?
La bascule, bah, c'est quand je me suis mis à comprendre ce qu'était le poker, quoi. Quand, comme j'avais dit la dernière fois, quand on voit sur notre table qu'il y a des mecs, ils ont plus de 150 000 de gains et que ça va tout droit vers le haut et qu'il y en a d'autres, ça va tout droit vers le bas, on se dit forcément, il y a un truc, quoi. Et donc, du coup, je me suis mis à ce moment-là à travailler mon jeu, mon poker. Je streamais le matin sur Twitch. Et on avait fait un petit groupe avec des potes. Et après, on fait des groupes de plus en plus forts.
Tu te doutais que ton cerveau était fait pour ça?
Mais en fait, c'est bizarre à dire. Mais en gros, quand je me suis mis à travailler le poker, je me suis dit, c'est sûr à 100%, je vais être pro et je vais gagner ma vie avec le poker. À ce moment-là, j'étais sûr.
T'as commencé avec YoViral, avec Poker Pro, c'est ça?
Non. J'ai regardé des vidéos gratuites, c'est
d'accord,
tout.
D'accord, ok.
Hein. Les vidéos qui étaient mises à disposition quand on allait sur son site, un peu les vidéos de présentation pour attirer les gens, etc. quoi.
Ok.
C'est quoi ton premier gros gain?
Alors, ça dépend, c'est quoi pour toi un gros gain?
Celui qui peut te permettre de te dire que ta bankroll t'autorise à voir un peu plus gros, quoi.
Alors, à un moment, je suis passé de 10 000... En gros, j'avais 10 000 de bankroll à ce moment-là.
C'était énorme, déjà.
Et le premier jour des séries, il y avait un marathon event à 50 euros sur Winamax. Et je suis venu troisième, je crois, pour 15 000. Donc, je suis passé de 10 000 à 25 000 à ce moment-là. Et après, je suis passé de 25 000 à 100 000 en finissant deuxième d'un 15 euros sur Wina. Un énorme 15 euros où il y avait 102 000 joueurs. J'ai fini deuxième pour 75 000. Donc là, je suis passé de 25 000 à 100 000 de roll, quoi. Là, c'était vraiment le coup de boost.
Et t'as senti, je sais pas, t'as eu un truc, un déclic dans la tête, tu dis pour moi c'est pas compliqué.
Bah en fait à ce moment-là,
un truc que t'as compris quoi. T'es une facilité.
J'avais jamais eu de coaching avant que j'arrive au Portugal, donc j'ai monté ma bankroll à peu près 170 000 et j'avais jamais eu de coaching avant. Je jouais juste à l'intuition quoi. Et du coup quand j'ai été coaché, il y avait plein de trucs à équilibrer quoi.
Et qu'est-ce que t'as dit ton premier coach?
Bah, mon premier coach au départ, il m'a dit, oh, il y a plein de trucs que tu fais qui sont bien contre les gens et il y a plein d'autres trucs que tu fais. À mon avis, il y a des choses que t'as pas compris dans la théorie, quoi. Le truc, c'est que quand tu joues des 10 euros ou des 20 euros, t'as pas besoin de théorie ici.
C'est loterie.
Ah, bah oui. Bah ouais, c'est à bout de la fortune.
Tu joues simple, t'as une main, tu bêtes, t'as pas de main, tu vas-y, cadeau, et puis, l'argent, ça vient petit à petit, quoi. Si t'as une bonne intuition, évidemment, faut avoir la logique derrière.
C'était quoi, d'après toi, c'était quoi tes forces? Comment tu t'es analysé toi-même pour comprendre que tu pouvais faire cette carrière-là dans le poker? Quelles étaient tes prédispositions pour ça?
Ma force, je pense, une de mes plus grosses faiblesses, c'est la gestion de la bankroll. Mais une de mes plus grosses forces, je pense, c'est la non-peur de l'argent. Alors du coup, ça peut être dangereux, mais ça peut être bien, quoi. Quand on joue les tritons, maintenant, j'ai pas
Et
peur de l'argent.
Pourquoi t'as pas peur de l'argent?
Je sais pas.
Tout le monde a peur de l'argent. Il met pas d'émotion dans le.
Mais tout le monde a peur de l'argent.
Bah non,
mais en fait, même là au jour de maintenant, ça peut paraître bête de dire ça, mais je sais que si je me broque, s'il me reste zéro de bankroll, je sais que je remonterai facilement.
C'est
il me laisse sans voix. C'est un peu particulier. C'est rare d'entendre ça quand même, hein, Thomas.
Mais surtout que tu m'avais déjà expliqué, t'avais déjà été broke. J'avais été broke, t'avais tout perdu et t'as remonté.
Ouais. J'avais monté à peu près 200 000 de bankroll, j'ai tout perdu. Et en fait, j'ai remonté de 1000 balles. J'ai fait 1000 tout 100 000 en un mois et demi, quoi.
Mais justement, quand on devient broke la première fois, on n'a pas envie de le revenir une deuxième fois. Surtout que tu prends de l'âge, que l'argent, bah, ça reste quand même de l'argent. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis, bah, c'est là où je dois travailler, c'est ma bankroll management.
C'est pour ça que maintenant, je fais un peu plus attention. Mais par exemple, quand au départ, je commençais à me dire dans ma tête, ok, je peux être professionnel, je me suis broke, mais des dizaines de fois. Alors ce broke, c'est genre, je dépose 100 euros, je monte 3-4 000, et ces 3-4 000-là, je les perds. Et je recommence, et à chaque fois, c'est la même chose, c'est la même chose.
D'accord.
Et donc maintenant, c'est pour ça que je fais un peu plus attention. Je vends des parts sur les tournois, je suis stacké, etc. Mais j'ai cette conscience-là maintenant en faisant plus attention, mais avant, je l'avais complètement pas, quoi.
T'es proche de la communauté poker, des autres joueurs, t'as réussi un petit peu à connaître tout le monde maintenant, t'es complètement intégré à la commu poker?
Ouais, complètement, de la part des Français. Déjà, il y a Benjamin Chalot avec qui j'ai fait les tritons là à Monténégro. Donc on est assez proches, on discute stratégie et tout à la pause.
ATM,
qui a la team ATM, M The Million. C'est ça. Et quand on était à Jeju, je parle bien à Jean-Noël Torel qui est accompagné par Frédéric Delval.
Les crèmes.
Et du coup, il y avait aussi Axel Allais, un autre Français. Donc on était Axel Allais, Benjamin Chalot et puis Jean-Noël Torel.
Je voulais pas le dire. Je te jure que je voulais pas le dire. Et ouais, mec.
beaucoup de joueurs de poker qui ont ce genre de résultats ont des formations à la base qui les rapproche des maths, souvent des matheux, école d'ingénieurs.
Ou des joueurs de StarCraft.
Des gens dans la finance ou des cerveaux qui semblent faits pour ça et tout. Quand on lit ta formation, tu n'étais pas du tout dans ce moule-là, toi?
Non, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Chaudronnerie industrielle en études, j'ai arrêté. J'ai eu mon CAP, il me restait un an à faire pour le bac, j'ai même arrêté.
T'as même pas le bac?
Non, j'ai même pas continué jusqu'au bac parce que c'était en chaudronnerie industrielle et je me disais ça va jamais me servir.
CAP, mais t'as déjà fait un test de QI et tout, t'es peut-être une sorte de génie.
Je pense que oui.
Bah, à mon avis, tu dois avoir un truc. Avec la formation que t'as, y a un truc hors du commun chez toi quand même, je pense.
Je sais pas, j'ai jamais.
Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, par exemple, au-delà du poker?
Gagner au poker.
Non, parce qu'une fois que tu.
T'as des projets, effectivement, si tu montais une banque de dingo?
Bah ouais, j'ai des projets d'investissement, essayer d'avoir des investissements à côté.
T'étais déjà mis à l'abri avec ces succès-là? T'as essayé de placer un peu déjà?
Ouais. Après, j'investis pas mal sur. On a un groupe avec 8 joueurs de poker, donc on est avec un autre français. On les stack et on les coach. Donc on les fait jouer les tournois. C'est pas eux qui payent leurs tournois et en même temps on les coach. Et donc on répartit un pourcentage pour le joueur et pour moi et l'autre gars qui le stack. Donc il y a ça. J'ai un peu de crypto. Bon, j'ai une maison au Portugal que je vais malheureusement vendre là, mais je vais bouger.
Et les gens de ton milieu professionnel, tu me dis, tu bossais à l'usine, en industrie et tout. Et quand ils t'ont vu partir et gagner ces sommes-là, c'est un gap social incroyable.
Mais en fait, il y en a plein, ils sont venus me voir et m'ont dit, je veux faire comme toi, est-ce que tu peux me guider? Et il y en a plein, j'ai déjà passé une heure et demie avec un ancien pote que j'ai pas vu depuis 4 ans à lui expliquer, ok, tu fais ça, et tu reviens me voir dans 2 mois. Et un mois après, je lui renvoie un message et je lui dis, alors t'en es où? Il me dit, ouais, non, j'ai give up le truc. En fait, je pense que les gens, ils ont pas la motivation, ils sont pas prêts mentalement à faire tous les trucs à faire pour en arriver là, quoi. C'est pas non plus facile, quoi. Ça fait 3 ans et demi, je tape 12 heures d'ordinateur tous les jours pour faire que ça. J'en ai perdu la vue, quoi, presque.
Oui, donc mentalement, y a une volonté chez toi qui est un peu hors du commun, quand même.
Oui, c'est ça. C'est une grosse volonté, quoi. Une motivation.
Tu vas faire les 6 mix, il paraît?
6 mix.
C'est génial.
Tu viens à Marrakech, là?
Bah oui, je viens demain. Je pars demain.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es au courant que c'est des baïnes de Charclos? C'est pas pour un mec comme toi,
attends,
je veux dire.
Attends, il y a un aéroleur à 2K, attends.
Un aéroleur à 2K.
C'est vrai. Comment tu fais pour te motiver quand tu fais un baïne à 100 000, à 2K, déjà
ça,
que
tu dis
que t'arrives à relativiser la valeur de l'argent, les 2000, là, c'est pour te, c'est
oh, bah, au final, j'ai fait la même chose. J'ai joué 3 fois le main event à 125 000 au Monténégro. Le lendemain, je suis parti à 14h. Je suis arrivé ici à 19h. À 20h, j'étais sur le Mystery 500,
C'est, non, mais c'est quand même, c'est génial. Et moi, je trouve ça top.
Bah ouais, en fait, c'est juste que j'aime trop les cartes, j'aime trop le jeu, j'aime l'ambiance quand je suis à table, je me sens à l'aise et je kiffe le jeu, quoi.
Tu parles
à passionné. Ouais, bien sûr.
Ah oui, il est pas timide, hein, Loulou. Hein. Ah, il est pas timide, Loulou.
Je vais foutre un coup de pression.
Tu parles toi à table? Non, toi, tu parles pas trop à table, toi.
Si, ça dépend si l'ambiance est ok.
Tu d'ailleurs, c'est là que je
joue le mieux. D'ailleurs, c'est là que je joue le mieux. Ouais. Si j'arrive à parler, si je suis décontracté à table, c'est là que je suis le mieux.
Non, mais en plus, il y aura Gus Hansen, Gus Hansen sera là aussi X-Mix.
Ah ouais? Gus Hansen va faire le high roller, j'imagine.
Bon, je pense. Et le main event, ouais. Et puis, il va kiffer le Maroc, je veux dire.
Si, fais le finisher, là, tu vas voir. Je vais te montrer un peu de quelle boîte
on se voit sur l'after foot.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais,
sur l'after foot.
Non, on se voit sur l'after foot, le tournoi.
Le tournoi after foot. Bah oui.
Ah non, le tournoi à 2 euros. Non,
à 2 euros. De rang et rentrée.
Ah non, je croyais que tu suivais le foot un peu. Bah... Non, tu suis pas. T'as pas le temps.
Non.
Quand on fait les tritons, on n'a pas le temps.
Ah bah le triton, ouais, effectivement.
Ça prend de la place.
Non, mais je trouve que t'as une histoire qui est assez originale quand même.
Je trouve qu'elle est belle,
son histoire. Entre sa formation, les doigts, c'est fou. Donc les tritons sont un petit peu devenus ton quotidien.
Ouais, c'est ça. C'est ce que je veux tous les faire maintenant. Mais maintenant, je me suis bien installé au Triton.
C'est combien de tournois par an, les Tritons? Pas de. Quand
deux,
je dis tournois, je parle
de je pense.
De lieu d'étape. Étape, je voulais dire.
Chypre, Monténégro, Londres,
absolument.
Et va y avoir Monte Carlo aussi, qui va arriver là. Aussi,
en Asie, il y en a beaucoup.
En Asie et en Corée.
Je crois que 5, exactement, 5. 5.
Bah, Vietnam, celui que j'avais vu. Moi, je rase tout le monde.
Ouais, mais après, je pense qu'il switch entre le Vietnam
exactement.
Et la Corée du Sud. Endroit, quoi.
Et tu pourrais écrire un bouquin avec Thomas, Daniel, parce que Daniel écrit. Hein, c'est...
Non, je pense qu'il peut avoir une. Non, mais son histoire.
Je trouve que son histoire, elle est.
Les gens font son parcours.
Ouais. Parce que t'es l'un des seuls Français à avoir explosé en l'espace de si peu de temps. Il n'y a pas un Français actuellement, je parle bien sûr du top 10, qui a le même parcours que toi.
Et ça n'a pas fait de jaloux dans ton milieu d'origine non,
au contraire, les gens ils sont plus envieux et ils me demandent des questions et ils sont bienveillants, les gens. Quoi. Mm-hmm. Je trouve qu'il n'y a pas de choses comme ça. Quoi.
Au contraire, même, assez tranquille, quand même.
Au niveau des règles qui jouent assez haut, par exemple, quand j'avais gagné le 50 000 à Paris, il y avait Alexandre Riard qui était venu me voir et qui m'a dit oh, je suis fier de toi qu'un Français a fait ça, t'as pas peur de jouer ces tournois-là.
Super, et super, Alex.
Quand on vient me voir, on me dit ça, bah, ça fait plaisir. Quoi. C'est bienveillant et gentil. Donc.
T'as jamais peur à table?
Quand tu joues à 100K, frère, tu vas avoir peur de quoi?
Peur, il y a un peu des sensations.
Non, il y a une sensation
qui vient.
As-10, As-3, par exemple.
Oui, c'est ça. Où, par exemple, à la bulle du 100K, j'ai joué un coup où j'ai 3 bêtes. Il m'a fait tapis Michael Watson, 40 blindes. J'ai payé 2-10. Il avait As-3. Il a fait l'As au flop et je fais le 10 river. Oh. Il y a le 10 river. Moi, tu... Dans ma tête, c'est...
Moi, je peux te dire que la table, je la dévisse.
Je sais pas, ce coup-là, il voit à peu près 600, 700, 700 000, ce coup-là. Dans ma tête, c'était n'importe quoi. Il y avait plein d'émotions qui venaient.
Ah, mais tu m'étonnes.
Moi, je gueule, hein.
Ouais, Mundir, c'est même pas la peine.
Je lâche les poules.
Sous la table, c'est une flaque.
Mundir, il se lève.
Mais moi, c'est... Il voit le 10 river, ça devient une flaque.
Je lâche les faucons, moi. Les faucons, les faux.
Les cochons volants.
C'est le puits du fou, moi. Je veux dire, tous les puits du fou, tous mes copains, c'est l'arche de Noé, je te le dis tout de suite.
J'aimerais bien faire ça, mais le truc, c'est que, par exemple, pour le joueur, je me dis, le joueur qui bust, il vient de se prendre le 10 river. Si tu
fais, ah ouais, je
si
gueule.
Tu gueules comme ça, il va se dire, attends.
Comme le mec qui m'a niqué mes as avec cet essai.
Ah ouais.
Que je l'ai envoyé au bois.
Il l'a envoyé au bois.
Et comment ça se passe pour Bahin à 104? T'as des gens avec toi? T'es stacké?
Ouais, bah par exemple là en fait l'histoire c'est que le 100K j'ai fini deuxième et celui qui a fini premier en fait c'est mon ancien stacker et coach, ce mec là.
D'accord.
Donc en fait j'ai fait heads up pour 2017 contre mon ancien stacker et coach. Donc c'est un peu une expérience bizarre et
donc tu vendais pas
tout. Donc tout en fait non, lui il me stackait à 100% et on partageait 50-50 au niveau des profits quoi.
C'est génial.
Ouais.
OK. Oh, le deal en or. Hein. Putain. Ouais, Daniel. Comme toi quand t'as filé des deux, t'as eu un deal en or.
Ouais, j'ai des gens qui croient en moi, mais pas toi.
Ouais, excuse-moi.
Alors, bon. On revient dans un instant pour la suite du RMC. Bah
oui.
Un petit peu d'actu et Harper, on va parler de son doc sur David Dupitaille. A tout de suite.
Ah, RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mundir.
La troisième partie du RMC Poker Show. On a eu du beau monde ce soir. Greg Chauchon, les WSOP, ça démarre dans deux jours, le 28, oui, c'est ça. 28 mai, 17 juillet. Et Thomas Santerne est avec nous en studio. Il est là, Thomas. Éric Roy, meilleur entraîneur de Ligue 1, passionné de poker, qui avec Brest a tout cassé cette année, était également avec nous. Et Harper va nous rejoindre. Harper, est-ce que tu es là? Comment ça va, Harper?
Salut Daniel, ça va très bien et toi?
Oh là là, tu t'es mis où là? T'es dans tes toilettes, ça résonne à mort?
Ah bon, on m'a dit que c'était bon. Non, écoute, je suis chez moi, tout va bien, je suis plutôt bien.
Faut mettre des tableaux au mur, hein, ça résonne trop. Mets des tapisseries, je sais pas.
Non, mec, le plafond est haut, bravo.
Ou alors t'es dans un manoir.
Je vais me cacher. C'est très très grand, effectivement. Bah, le documentaire a fait tellement de vues que j'ai déménagé dans un manoir.
C'est ça, mon loulou.
Rapidement, un mot d'actu. On a un peu tout dit, mais on va quand même répéter. Catherine Mateos Diaz a fait deuxième du 200 000. Il y avait 93 personnes au départ de ce tournoi. 3,4 millions de dollars de gains.
Mais il a fait premier aussi. Hein.
Il a fait premier
du 50, c'est ça?
C'est ça.
Du 50. Hein. Donc, c'est du lourd, hein. Adrian, toujours en forme, hein. Bien évidemment. WSOP, on en a parlé, hein, Jean-Bouin, Dan, hein, des deux, on pensait te voir.
Bon, on en a parlé, tant on a parlé pour dire que t'as rien fait.
Voilà, je voulais te renvoyer la.
On a bien compris que c'est pas pourquoi. Bon,
en tout cas, le roller a été remporté par un Français qui s'appelle.
Harper, qui a une analyse toujours un petit peu fine du monde du poker et des résultats. Alors, j'ai demandé à Mundir comment ça s'était passé, Harper. Je te fais la réponse. En quelques mots, tu vas me livrer ton analyse. Je vais me dire comment c'est passé. Je me sentais pas très très bien. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me sentais moyennement bien. Je te laisse analyser. C'est bon.
Oui. Il était éclaté au sol. C'est
ma seule analyse. Je pensais que t'étais un pote toi aussi, Harper, mais c'est pas grave. Ok. Bah attends, je vais parler de ton.
Est-ce que tu sens l'excuse vraiment moisie? Je me sentais pas trop bien.
Bah attends, je vais parler de ton docu.
On n'est pas passé loin de la clim était un peu trop forte.
Mais pas du tout.
C'est ça.
Bon, ok, vas-y.
On n'est pas passé loin de la fontaine à eau. La fontaine à eau c'était un peu chaud. L'eau était un peu chaude à la fontaine.
À deux contre un, bien wesh.
Voilà. Mon Dieu.
Les croisés, tu connais.
Les croisés des orteils.
Harper, c'est quoi ce doc? Alors, quelle idée? Alors, ça fait longtemps d'abord. Je pense que t'as pris un an, donc, documentaire sur David Dupitaille. Raconte-nous un peu la genèse du projet.
Ouais, bah David Dupitaille, pour moi, c'est vraiment un des joueurs qui me passionne le plus, j'ai envie de dire, sur le circuit, parce qu'il a quelque chose de différent des autres. Il est peut-être moins dans la justesse technique par rapport à d'autres joueurs, mais il a quelque chose de très énigmatique. Il a une lecture tellement affûtée. Voilà, on connaît tous ses hero calls. Et enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'au quotidien, on ne sait pas vraiment qui est cet homme en dehors des tables. Alors, l'idée du reportage et du documentaire, quand je lui ai proposé, bah, c'était vraiment de savoir comment il s'était construit, comment il en était arrivé là, à 3 bracelets WSOP, 11 millions de dollars de gains en carrière, et puis surtout savoir comment fonctionnait son cerveau, quoi. Comment il réagit, comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il analyse. Donc c'est vraiment tout ça qu'on a essayé d'aller chercher, d'abord en allant fouiller dans sa jeunesse, puis en voyant comment le champion s'est transformé ensuite.
Mais il y a quand même, au-delà du joueur qu'il est, il y a aussi un côté humain, Harper, parce que depuis la naissance de Winamax en France, il n'y a pas eu de documentaire sur un joueur pro de la team Winamax. Je pense qu'il y a aussi un côté humain, ce que tu aurais pu aussi.
Parce que c'est ça qui l'a intéressé avant tout.
Ouais. Mmh. Est-ce que ouais. Parce que au-delà des 11 millions, oui.
Ouais, c'est ce qui transcende, je pense, à travers le reportage. Et David, il y a un côté humain incroyable. D'ailleurs, il y a cette phrase d'Adrian Mateos dont vous parliez, que j'adore dans le reportage. Adrian dit: je n'ai jamais vu faire Davidi quelque chose que je n'aime pas. Et je pense qu'on est tous pareils, quoi. Davidi, c'est un modèle pour beaucoup. C'est quelqu'un de très empathique et qui est toujours porté vers les autres. Et pour ramener aussi un peu la chose au poker, Davidi, comment il se construit en tant que joueur, c'est qu'il va toujours être à l'écoute de n'importe quel joueur, que ce soit un joueur des Tritons ou un joueur de club. Il va toujours écouter ce qui lui est dit pour en tirer quelque chose. Alors peut-être que ça va être pour exploiter celui qui est en train de le parler, mais aussi et souvent pour essayer de progresser, de devenir meilleur, que ce soit en tant que joueur mais aussi en tant qu'humain, et pour ça il est exceptionnel.
Ouais, j'ai bien entendu le côté humain qui te plaît chez lui. Tu sais, c'est un petit peu comme quand on était gamin, qu'on avait les super-héros. Moi j'aimais toujours celui qui était un peu le moins robot. Oui. Mon préféré, c'était Spider-Man, parce que Peter Parker, il était un peu plus humain que les autres.
Grâce à une araignée.
Des robots et tout. Ouais. Ah, donc, visiblement, pour Harper, le plus humain de tous les champions que tu fréquentes, c'est
lui. Je pensais que tu étais plus du côté de Larry Osborne, toi.
Ah, je sais pas qui c'est.
Le bouffon vert. Mais oui, c'est Larry Osborne.
Ouais, d'accord. Mais... Je parlais des BD quand j'étais jeune.
Ah d'accord, Marvel Comics.
D'accord. Mais t'as raison, je pense que c'est ça en fait. Quand on regarde, c'est un joueur aussi auquel on peut plus facilement s'identifier, ouais. Se projeter en se disant moi aussi je peux le faire. Voilà, Thomas qui est en train de faire de 2 ans là, complètement de folie comme il le dit. Voilà, il passe 12 heures par jour derrière les ordinateurs. Quand il en parle à ses potes, les potes s'arrêtent parce que c'est trop compliqué. Et David, il y a toujours cette forme de magie où on se dit, écoute, là c'est de la lecture, c'est presque, enfin c'est fou, c'est inspirant, et pourquoi pas y arriver moi aussi, c'est une autre forme de poker, quoi.
Est-ce qu'il y aura peut-être d'autres documentaires suite à celui-là?
Ah bah laisse lui digérer celui-là déjà, c'est un an de travail.
Ça y est, il est fait. Non mais il peut y avoir autre projet.
Ouais, moi évidemment sur des projets j'en ai toujours, et donc oui l'idée ça va être d'en réaliser d'autres. Voilà, il y a toujours pas mal d'idées en tête. T'aimerais voir un documentaire sur qui, toi, Mandir, dis-moi.
Par exemple, moi, sur Daniel, ça serait cool. Un documentaire sur Daniel, ça serait sympa.
C'est vrai que ce serait sympa. On avait déjà fait une belle vidéo avec lui à Vegas, où on l'avait suivi dans ses exploits au WSOP.
Ouais, je pense qu'il y a mieux à faire. C'était la première fois, la deuxième, j'ai été beaucoup plus à l'aise, tu sais.
Donc, ça peut être une idée.
Le documentaire sur David Ikitaï, donc un des personnages les plus fameux du circuit depuis plus de 10 ans maintenant, c'est disponible sur YouTube.
YouTube et le portail de Winamax.
Et sur le portail de Winamax, c'est réalisé par Harper, qui est une des grandes figures de Wina maintenant.
Il commence à être le James Cameron et de Winamax.
Je sens quand même, Harper, que c'était un peu ton projet, quoi. Tu y tenais, parce que au-delà du fait que ce soit un joueur qui te plaît, c'est un ami, c'est quelqu'un que tu respectes et que tu admires énormément, non?
Exactement, et donc par moi et Fabrice Zareba aussi, que je tiens à citer, qui était derrière la caméra, aux images, à la réalisation, qui a fait un travail sur le montage énorme aussi. Et oui, Davidi, en tant que souvenir personnel, moi le premier European Poker Tour auquel j'ai assisté, c'était à Barcelone, c'était en 2008, à peine majeur, j'étais entré dans le casino, et là j'avais vu ce génie en action, ouais. Davidi Kitaï, que je vois sur la table finale, et je le voyais comme ça justement en train de regarder, d'observer ses adversaires. Il a terminé 3e, c'était le plus gros résultat de sa carrière à ce moment-là. Et ça m'a absolument passionné de le voir jouer. Et derrière, effectivement, comme tu le dis, j'ai appris à le connaître en tant qu'humain. Et cette envie, effectivement, qui laisse une trace, en fait, de pouvoir lui permettre de raconter sa vie. Et puis j'espère que ça restera dans le temps. Et je me dis aussi, c'est génial, voilà, que ses enfants, que sa famille aient accès à ça plus tard. Comme dans le poker, ça reste quand même un petit milieu où il n'y a pas des documentaires qui sont faits tous les 4 matins. Bah, effectivement, très heureux de pouvoir lui permettre de garder ça pour l'avenir. Ouais.
Merci Harper. Donc le doc il est à voir sur YouTube. J'imagine que tu es peut-être pas déjà au Sismic, tu vas arriver, tu y vas.
Ouais, je passe par les WSOP. C'est dès demain au stade Jean-Bouin pour aller voir ce qui se trame. Sismic ensuite et puis les WSOP qui arrivent derrière. Hein, ça commence aujourd'hui, dans deux jours, pardon, effectivement.
Juste voilà. Daniel, il y a un truc qui m'a extrêmement touché juste pour finir. On voit son papa qui effectivement est décédé, on le voit parler. Et je trouvais ça super top du fait que ça lui laisse une trace pour David.
Ouais, son papa et sa mémé effectivement qui nous ont quittés peu de temps après le tournage et ouais, c'est de beaux hommages qu'il a pu leur rendre.
Bravo.
Harper, on se voit au Sismix dès mercredi si tu y es. Rendez-vous.
Merci James Cameron.
Avec plaisir.
Merci James Cameron. Au bord de la piscine, Moundir aura recommandé les petites brochettes.
Les brochettes pour toi et bien sûr Thomas, tu es invité à manger les brochettes, les célèbres brochettes de la table de Daniel. Voilà.
Bonne semaine à tous.
Salut les copains.
On se retrouve en direct du Sismix la semaine prochaine. D'ici là, nous aurons gagné des tournois.
Sismix, oui. Pas.
Minuit, 1h.
C'est le RMC Poker Show.
RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Winamax, le plus important, c'est de gagner.